Le titre de mon message ce matin, c'est « Notre foi indélébile ». Quand on était jeune, on admirait nos parents parce qu'eux, il y avait des crayons indélébiles. Mais nous, les enfants, on nous remettait des crayons lavables. Parfois, je ne sais pas pourquoi mes filles sont particulièrement intéressées par les crayons indélébiles. Ils vont faire ça sur les meubles du salon ou sur la table de la salle à manger. On dirait que c'est plus amusant. Puis ça fait freaker les parents, si vous me permettez l'expression. Notre foi indélébile, permanente. La tradition catholique au Québec voulait qu'un père prononce une bénédiction sur chacun de ses enfants le premier de l'an. Est-ce que vous connaissez cette tradition? Donc là, vous vous demandez qu'est-ce que je vais sortir de mon sac. Ça ne sera pas long. Le premier de l'an, c'est un moment privilégié pour le père de famille pour exprimer ses souhaits les plus chers à l'égard de ses bien-aimés. J'ai une collègue qui raconte que son père était incapable de les bénir sans fondre en larmes. C'est touchant quand on y pense ce que ça représentait pour cet homme. Alors, je me suis posé la question, quels pourraient bien être les vœux de notre Père céleste pour nous aujourd'hui? Sa bénédiction pour ses enfants. Puis je crois avoir une piste de réponse dans ce récit rapporté par l'Évangile de Luc dans le Nouveau Testament. On va pouvoir le suivre à l'écran. Dans Luc chapitre 22, versets 31 et 32. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Jésus révèle à son ami qu'il a prié pour lui. On n'a pas tous les détails, mais on sait qu'il a fait cette confidence à Simon. « Ça va brasser. » Mais j'ai prié pour toi. Mais qu'est-ce que le Seigneur a bien pu demander à son père dans de telles circonstances? Il a dit, j'ai prié que ta foi ne disparaisse pas. Dans le fond, Jésus aurait pu demander n'importe quoi pour protéger son ami, sachant qu'il allait bientôt être la cible d'attaques carrément sataniques. Mais qu'est-ce qu'il demande? Il prie son père de lui accorder une dose de foi indélébile, ineffaçable. Puis quand le Fils de Dieu demande quelque chose dans ses prières, moi je veux savoir pourquoi. Pas vous? Ça m'intrigue. Quand tu as accès à l'arsenal céleste, Jésus a dit qu'il aurait pu faire descendre les myriades d'anges pour le défendre, pour prendre la défense de ses proches. Puis qui demande une chose, de la foi. Il y a quelque chose à aller explorer, puis c'est ça que je vous invite à explorer avec moi ce matin. Mais premièrement, la Bible nous enseigne que la foi est un bouclier contre les attaques du démon. Jésus a bien dit, « Satan vous a réclamé ». Puis cette affirmation-là me rappelle l'introduction du livre de Job dans l'Ancien Testament, où la tête de Job est réclamée par Satan en personne. Puis écoutez-moi, Job était un homme de bien. Il était si juste qu'il ne pouvait pas supporter l'idée que ses enfants qui étaient rendus adultes ou adolescents, il ne pouvait pas supporter l'idée qu'ils soient en mauvais termes avec Dieu. Alors, il se levait aux petites heures du matin pour offrir des sacrifices pour chacun de ses fils au cas où l'un d'eux aurait péché la veille. Ça, c'est... La détermination, c'est de la consécration. Mais le diable est d'un cynisme, mes amis. Il ne pouvait pas croire qu'un homme puisse aimer Dieu de façon désintéressée. L'histoire de Job et celle de Simon ont ceci en commun. Elle nous présente Satan comme un adversaire cruel qui connaît bien les règles du jeu. Parce que si on se fie aux deux récits, ça nous donne une tendance. Il semble que le diable ne peut pas s'attaquer aux enfants de Dieu sans d'abord lui avoir demandé l'autorisation. Aie donc confiance au Seigneur ce matin qui ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes capacités. Quand tu es dans le feu de l'épreuve, c'est pas comme ça que tu le ressens naturellement. Tu dis, c'est au-delà de mes capacités, Seigneur, délivre-moi. Mais aie confiance qu'il ne permettra jamais que tu sois éprouvé au-delà de tes capacités. L'expression que Jésus utilise, c'est « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé ». Peut-être une image qu'on maîtrise moins, qui est moins familière pour nous, mais cribler le blé, cribler la céréale, c'est la secouer pour dégager la graine qui est comestible de l'enveloppe, de la feuille, si on veut. Et alors tout à l'heure, je dis « ça va brasser hein, ». Je disais que ça allait brasser pour Simon. Mais alors, je voulais vous l'illustrer de façon peut-être la plus palpable. C'est comme si on était le petit ourson en chocolat, tout mignon, et que le diable a demandé la permission de cribler, c'est-à-dire de secouer fortement. Qu'est-ce qui arrive à mon bel ourson si je me mets à secouer le contenant de toutes mes forces? Je donne pas cher de sa peau. Puis rassurez-vous, je ferai pas comme notre pasteur, là, je vous mangerai pas du chocolat en pleine face. Quoique, je serais capable. OK, cribler, c'est secouer pour faire sortir la graine. Ce qui me vient en tête, c'est est-ce que Dieu permettrait qu'on soit criblé, qu'on soit secoué par... même par l'ennemi de Dieu, dans le but que des graines puissent s'échapper, puis peut-être donner la vie. En tout cas, c'est pas dans mes notes, mais je vous le partage. Est-ce que quelqu'un ici, là j'ai aucune idée de la réponse, mais est-ce que quelqu'un ici a déjà subi une morsure de serpent? Je regarde en haut parce qu'il y a... Il y a beaucoup de familles africaines qui s'assoient à la mezzanine. Puis, bon, ici au Québec, les serpents, ça ne court pas les rues. Est-ce que quelqu'un à main levée? Levez la main si vous avez déjà subi une morsure de serpent. Là-bas, est-ce qu'elle était mortelle? Non, j'imagine, étant donné que t'es là ce matin. Ouais, Simon, t'avais ta réponse avant de poser la question. Bon, mais OK, merci, mais ça doit faire mal sur le coup. Ça doit faire mal, hein? Bon. Mais c'est pas nécessairement mortel. En fait, ta survie dépend vraiment de ce qui arrive par la suite, après la morsure. Est-ce que c'était une espèce venimeuse? Je pense que non. Merci Seigneur. À moins d'un miracle, hein? Est-ce que c'était une espèce venimeuse? Ben, si c'est une espèce venimeuse, il te faut un antidote. Est-ce qu'on t'a administré un antidote? Très jeune, mais si c'était un serpent venimé, Dieu a un grand plan pour ta vie, ma sœur. Je te vois pas très bien, mais parce qu'il t'a maintenu en vie à travers ça. Ça te prend un antidote rapidement. Ça prend un remède. Donc, la piqûre, la morsure n'est pas nécessairement mortelle, mais le temps est compté. Ça te prend, et lorsque l'antidote est disponible, il faut pas regarder la bouteille. Hein? Il faut l'administrer. Il faut agir. En réalité, tu peux être devant l'antidote et faire comme si rien n'était et mourir d'un empoisonnement. Mes amis, c'est la tragédie du refus de l'Évangile. C'est être si près de l'antidote, être si près. Le sang de Jésus ne peut rien faire pour quelqu'un qui se croit une bonne personne avec de bonnes valeurs. C'est dur ce que je vous dis ce matin. En revanche, la personne qui ressent son indignité va courir vers la croix de Jésus pour obtenir le remède. Amen. Merci Seigneur pour ce sentiment d'indignité qui nous sauve la vie. Il y en a qui l'ont déjà expérimenté. Il y en a d'autres qui me regardent. Simon, tu remercies le Seigneur pour le sentiment d'indignité. On est des enfants de Dieu. Attendez. Dans notre évangile, le sentiment d'indignité ne vient jamais seul. Il vient avec le sentiment d'être aimé. De ce côté-là, ils comprennent. dans notre évangile, le sentiment d'indignité vient avec le sentiment d'être aimé. Romains 3, 27. Tu es indigne, mais Jésus te dit ce matin, tu es aimé. Je suis indigne, mais je suis aimé. On ne mérite pas cet amour. Tout comme l'apôtre Pierre ne méritait pas d'être appelé l'ami de Jésus après l'avoir renié trois fois. Ce même Pierre qui avait dit quelques heures auparavant, « Seigneur, je suis prêt à aller en prison avec toi et même jusqu'à la mort. » Que de bonnes intentions. Puis en effet, Simon, dont on parle ce matin, était à côté de Jésus quand celui-ci a été capturé au jardin de Gethsémané. Au début, il se sentait fort, prêt à combattre pour son maître. Mais comme Jésus se laissait faire, Simon a été désarmé. Et les deux bras y ont tombé. Il ne s'attendait pas à ça. Il était venu équipé, il était venu prêt à défendre son maître. Mais il a quand même voulu voir où on amenait le Seigneur. Et en se dissimulant dans le cortège, il a pu être témoin de la passion du Christ. Ou du moins, le début. Il devait trouver les autres disciples bien lâches d'avoir pris la fuite. Toutefois, il n'a pas eu l'occasion de se péter les bretelles, comme on dit. Ping! Il n'a pas eu l'occasion de se péter les bretelles très longtemps. Car Satan est venu le cribler comme du froment. Il a suffi de trois petites questions aussi banales que « T'étais pas avec ce Jésus, il me semble, toi. » Voici ce qui arrive quand notre identité est attaquée. C'est très instructif. Tu n'étais pas avec Jésus. Il me semble, en plus, tu as l'accent galiléen comme lui. On fait dur, les chocolats suisses. Oui, je te replace. Je t'ai vu avec Jésus. T'es même un de ses disciples. Qui veut l'avoir maintenant? Voyez comme les épreuves nous font perdre notre belle assurance. Est-ce que vous vous sentez un peu comme l'ours? Il y a peut-être des gens qui vivent une épreuve ou qui se sentent criblés. Secoués. Les épreuves nous font perdre parfois notre belle assurance. C'était le cas de Simon. Simon était très, très gonflé d'assurance. Ce soir-là, cette nuit-là, il a dégonflé. Les épreuves peuvent nous faire perdre notre insouciance. Je parle pour moi. J'ai vraiment peut-être eu une époque de ma vie où je vivais une belle insouciance, une légèreté, la joie de suivre Dieu. Et merci Seigneur pour ces moments parce qu'on se nourrit, on prend des forces, mais c'est une certaine préparation pour ce qui s'en vient. Et après, quand les épreuves frappent, on peut perdre notre candeur naturelle. Ça fait mal. L'expression anglaise dit « ça dégrise ». Je sais qu'on n'est pas adonné à l'alcool, mais on peut comprendre le concept. Ça dégrise, ça nous ramène à notre sens, les épreuves. Mais Jésus a prié que la foi de Simon ne défaille pas. C'est justement parce que la foi d'un homme en difficulté, la foi d'une femme en difficulté, est sujette à faiblir, est sujette à pâlir. Jésus ne faisait pas de prières inutiles. Okay? Assurons-nous que nos prières ne soient pas inutiles ou purement cosmétiques. À cet effet, on est en droit de se demander si la même prière que Jésus a faite pour son disciple, est-ce qu'elle s'applique à nous? Et je vous pose ma question ce matin. Est-ce que la foi des chrétiens risque d'être mise à l'épreuve en 2025? On n'est pas devin. Mais est-ce que notre foi en tant que croyant en Jésus risque d'être mise à l'épreuve cette année? Ne pensons pas que nous sommes à l'abri du découragement ou de la dépression. Les croyants et les non-croyants sont égaux devant les tragédies de la vie, à une exception près. Les chrétiens ont des vérités et des promesses à méditer. Et lorsque l'expérience subjective de nos cœurs n'est pas à la hauteur de la foi objective que nous professons, nous pouvons continuer de méditer ces vérités sans rougir le temps que leur effet se fasse ressentir. Je répète, l'expérience de nos cœurs n'est pas toujours à la hauteur. La façon de le vivre, de l'expérimenter, de l'éprouver dans notre cœur, dit Seigneur, où sont tes promesses? Mais en prenant la décision de méditer sa parole, de repasser dans notre cœur, dans nos pensées, les vérités qui nous ont été révélées, peu à peu, elles vont faire leur effet, elles vont descendre. Amen. Oui, notre foi est un bouclier contre les attaques diaboliques. Amen. Deuxième réflexion que je partage avec vous sur le thème de la foi, c'est que la foi est ce qui nous fait ressembler à Jésus. Et je vous partage ce psaume que j'aime bien, psaume 91, au verset 4. Il nous dit, « Il te couvre de son plumage, tu es en sécurité sous son aile. Sa fidélité te protège comme un grand bouclier. » J'aime ce psaume parce qu'on voit bien que c'est sa fidélité qui nous protège. Nous, notre petit bouclier de foi s'appuie sur un bouclier colossal de bonté et de fidélité en Dieu. Puis j'aimerais vous soumettre l'idée que la foi est un attribut de Dieu, dans la mesure où son Fils Jésus a été le plus grand modèle de foi qui nous a été donné d'observer. On a un bon modèle. Le prophète de l'Ancien Testament avait pressenti cette vérité, à savoir que le contraire de la foi n'est pas tant l'incrédulité, mais l'orgueil humain. Lisons ensemble dans Habacuc 2, 4, dans la Louis II, il nous est dit, « Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Bon, il parle des adversaires du peuple de Dieu, il parle des arrogants, des hommes puissants. Et j'aime cette traduction de Eugene Peterson, la traduction « The Message ». Je l'ai traduite en français. Donc, regardez cet homme, gonflé d'orgueil, rempli de son égo, mais l'âme vide. Mais la personne qui est en règle avec Dieu, grâce à une foi loyale et constante, est pleinement vivante, vraiment vivante. Amen. Le juste vivra par sa foi. Puis je pense aux pharisiens de l'époque de Jésus. Puis ça pourrait être les pharisiens de notre époque aussi, si le chapeau nous fait. Mais ces pharisiens, ces hommes religieux qui étaient imbus d'eux-mêmes, eux s'appliquaient minutieusement à observer la loi. Mais ils ne ressemblaient pas à Jésus. La Bible ne mange pas ses mots pour décrire de tels individus qui ont tellement confiance dans leur fidélité au commandement sans avoir de réelle relation avec Dieu. On voit bien que ce n'est pas la loi le problème. La loi est pure et parfaite. La loi vient de Dieu. Mais c'est l'attitude du cœur humain qui dit « Ah! Trop fafa! Trop facile! » et qui s'active à vivre une vie morale sans Dieu. Ah, les commandements, regarde, je suis capable, c'est facile. Je vais faire attention aux mots que j'utilise, mais c'est détestable aux yeux de Dieu, cette attitude-là, de vouloir vivre une vie morale, mais sans avoir de relation avec Dieu. Dans Hébreux 11:6, la Bible souligne que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il faut croire en lui pour lui être agréable. Or, le témoignage des Écritures ne pourrait pas être plus clair. Jésus est un homme agréable à Dieu. Okay? je vais essayer d'aller vite, mais son père l'a affirmé publiquement et de façon indiscutable. Pierre atteste en avoir été témoin quand il écrit « Cette voix, nous l'avons entendue nous-mêmes venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. » Une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Donc, si ça prend la foi pour plaire à Dieu, pour être agréable à Dieu, est-ce qu'on peut s'entendre que Jésus était un homme de foi, est un homme de foi, un modèle de foi? Jésus avait la foi, mais remarquez qu'il s'est quand même astiné avec son père dans le jardin de Gethsémané. S'astiner, c'est discuter, c'est argumenter, c'est négocier. Je trouve intéressant de comparer sa première tentation dans le désert, hein, qui nous est rapportée dans Luc chapitre 4, je crois, 3, 4, avec son épreuve finale quelques heures avant d'être condamné à mort. Dans le premier cas, au désert, il a refusé de discuter avec le diable. Lors de sa tentation, il lui clouait le bec en citant les Écritures. Point final, fin de la conversation. En revanche, lorsqu'il s'agit de parler à son père, Jésus est tout pour le dialogue. Le soir avant d'être arrêté, il se présente 3 fois de suite devant l'Éternel pour implorer sa grâce et réaffirmer son désir de faire sa volonté coûte que coûte. Et il va garder la foi jusqu'à la fin. Amen. Mais sachant que chacun de ses disciples serait criblé, secoué, et particulièrement Simon, je donne pas cher de l'état, il a prié pour lui. Il a prié pour lui. Il a demandé à son père de préserver une braise de foi dans son cœur, une petite chandelle qui fume encore et qui pourra toujours être rallumée. En fait, peux-tu vous dire un secret? Dans 53 jours seulement, cet homme qui est issu du monde de la pêche, un homme d'affaires, issu, bon, d'un métier, va devenir le plus grand prédicateur pentecôtiste de l'histoire. Il va prêcher et des foules de milliers de personnes vont venir à la foi. Mais ça, on ne le sait pas encore. Mais avant, il va devoir passer par un dépouillement très douloureux. Avez-vous déjà expérimenté un dépouillement très douloureux? Ah! Je vous le souhaite pas, mais c'est biblique. Mais quand nous gardons la foi, quand nous maintenons un ancrage en Dieu, hein, on va ancrer nos pieds dans la parole, nous ressemblons à notre Seigneur Jésus. Maintenant, mon troisième point, troisième réflexion par rapport à la foi que Jésus demande pour ses disciples, c'est que la foi nous pousse à prendre la parole et à agir. Permettez-moi de revenir au passage qu'on avait vu en introduction dans Luc 22. Remarquez comment Jésus semble assez certain que sa prière va être exaucée. Et ce, malgré la solide chute que son disciple va subir. Car il lui dit ensuite, « quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Mon frère, ma sœur, je ne sais pas ce que l'année 2025 te réserve, mais je me joins à notre Seigneur Jésus pour prier que ta foi demeure. Et cette foi ne te laissera pas inactif ni stérile, mais elle t'inspirera à passer à l'action. Car la foi est un don qui se partage. N'est-ce pas? Bon, j'inviterai déjà les musiciens à venir me rejoindre. Je veux illustrer cette réalité en partageant avec vous un souvenir d'un camp d'enfants où j'étais moniteur. Les magnifiques semaines passées au camp de l'Arche, on ressort à moitié mort, mais le Seigneur est fidèle. On y retourne l'année d'après. en tant que moniteur. Les enfants, eux, à part quoi? C'est quoi qu'ils ont attrapé cette année? C'était pas la coqueluche. C'était pas la COVID, c'est dépassé, la COVID. C'était la coqueluche cette année. OK, c'était le camp infiniment grand. Je pense que c'était en 2019. Puis on jouait... est-ce que Julie Lafont est là? C'est elle, je pense, qui animait ce grand jeu sur les constellations. OK, toutes les conditions étaient réunies pour passer un super bon moment, pour que les enfants s'amusent, une belle journée d'été, des grands espaces pour courir, un jeu dans lequel ils devaient récolter des cartes. OK? Ils devaient récolter des cartes un peu partout sur le terrain et les rapporter à leur base sans se faire toucher. Parce que s'ils se faisaient toucher par un des animateurs, on leur enlevait leurs cartes. Puis du même coup, ils devaient se transformer en statue et attendre qu'on les délivre. OK. Bon, je sais que ça peut sembler un peu compliqué, mais suivez-moi bien parce que c'est là que ça devient intéressant. Les organisateurs ont ajouté un élément important au jeu. Il s'agissait d'une baguette magique qui avait la propriété de rendre invincible l'enfant qui s'en emparait. Mais la réelle utilité de la baguette, c'est qu'elle donnait le pouvoir de rendre leur liberté aux joueurs qui avaient été transformés en statues. Certains enfants... Oh, c'était vraiment drôle à voir. Certains enfants étaient emballés d'avoir mis la main sur la baguette magique qui les rendait invincibles. Mais ils semblaient oublier que le but de cette baguette était de délivrer ceux qui avaient été immobilisés par l'adversaire. Ils disaient, « J'ai la baguette! Je suis invincible! J'ai la baguette! » On les voyait se promener, faire les fanfarons, si vous me permettez l'expression. Il était vraiment comique. Puis c'est comme si le Seigneur s'est servi de cette situation-là pour me parler. De voir ces enfants qui étaient satisfaits de demeurer en sûreté, sans même réaliser une seconde, qui n'était plus d'aucune utilité pour leur équipe. Ils ne faisaient pas avancer la mission. Mais ils étaient invincibles. Chers amis du Carrefour chrétien de la capitale, je crois que le Seigneur veut nous rappeler notre raison d'être cette année. Il a dit à Simon, « Quand tu seras revenu, affermis tes frères. Ne reste pas à terre. Lève-toi avec la foi qui t'est donnée. Viens appuyer Jean-Frédéric. Viens épauler Annie. Viens soutenir Simplice. Viens encourager Camille. Viens affermir tes frères. » Viens affirmer tes sœurs. La foi nous pousse à l'action. Prochain passage dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Et comme nous avons le même esprit, et les musiciens peuvent commencer à jouer, sentez-vous bien libres. Comme nous avons reçu le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru et c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, la même puissance agit en nous. Pour nous rendre invincibles? Peut-être. Mais surtout pour nous rendre utiles, pour nous rendre actifs. Alors si on récapitule les trois grands principes qu'on a découverts ce matin, sur la foi, l'importance de la foi. La foi est un bouclier. La foi est notre bouclier. La foi est ce qui nous fait rassembler à notre Seigneur Jésus. Et troisièmement, la foi nous pousse à prendre la parole et à agir. Elle devrait nous pousser à l'action. Tout mon message aujourd'hui s'inspirait d'une parole de Jésus, une sainte parole qui disait à Simon ce qu'il avait réclamé en prière dans ses temps d'intercession en faveur de son ami. Que sa foi ne s'efface pas. Que notre foi ne s'efface pas. Ce qui m'amène à vous poser cette question. Est-ce que ta foi est effaçable ou indélébile? Certaines personnes voient leur relation avec Dieu comme de belles vacances dans le sud et ils écrivent en grosses lettres le nom de Jésus sur la plage. C'est rempli de bonnes intentions. Mais Dieu sait que les vagues vont venir. Et vous savez aussi que les vagues de la vie ne manqueront pas de passer par-dessus. Et les traces de leur foi ne seront bientôt qu'un souvenir. Une des premières choses que Jésus a données à Simon, c'est un nouveau nom. Il l'a peut-être fait pour le taquiner un peu parce que c'est vrai que le fils de Jonas, il était frère d'André également, c'était tout un caractère. Il pouvait être dur de gueule, comme disaient nos ancêtres en parlant d'un cheval qui était pas facile à maîtriser. Un peu dur de gueule. Jésus l'a surnommé Pierre. Et dans un sens, c'était exactement ce dont cet homme avait besoin. Et Jésus a ensuite prié que Dieu grave la foi sur cette pierre. La foi. Frères et sœurs, que notre foi soit gravée dans le roc. Savez-vous quoi? L'important, c'est pas tant de rester debout, mais c'est de se relever et de retourner à Jésus, le bon berger. Et je termine avec ce verset en vous souhaitant une bonne année, mais je voulais partager ce verset dans 1 Pierre 2, verset 25. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble ce matin? Ce même Pierre qui avait chuté, qui avait renié son maître, qui se sentait moins que rien, qui se sentait indigne. Il s'est rappelé les paroles de Jésus qui lui disait « Tu vas être criblé, tu vas être criblé, mais quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Et là, il écrit aux chrétiens. Là, il est peut-être rendu âgé, les cheveux blancs, la barbe blanche, mais il dit « Vous aussi, vous étiez comme des brebis égarées, comme moi, et vous êtes retournés vers le berger, comme moi. » Et c'est lui le protecteur de notre âme. Je vous invite à prier avec moi. Je vais vous demander de répéter chaque phrase. Une prière pour placer notre confiance en Dieu pour l'année à venir. Répétez. Seigneur, je te fais confiance pour l'année à venir. Parce que je te connais, je ne perds pas espoir. On peut tout m'enlever, mais pas ma foi en toi. En ce mois de janvier 2025, je dis que ta volonté soit faite et qu'à la fin de l'année, je puisse dire « Le Seigneur a été fidèle en toutes choses. » Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Seigneur, tu es fidèle. Alléluia.